avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vos commentaires sur la situation en Gambie, où vous le savez, le président Yahya Jammeh s'accroche encore et toujours à son fauteuil alors que son mandat a pris fin il y a maintenant 8 heures. Pour l'instant, tout semble indiquer qu'il n'a pas l'intention de céder le pouvoir au président élu. En tout cas, Adama Barrow, lui, compte bien prêter serment dans la journée. Beaucoup de questions évidemment autour de sa prestation de serment, autour de cette investiture. En tout cas, il bénéficie du soutien de la CEDEAO et de l'Union africaine, un soutien diplomatique mais aussi militaire. D'ailleurs, si les négociations échouent avec Yahya Jammeh, des troupes sénégalaises et nigérianes sont déjà prépositionnées à la frontière, prêtes à intervenir. Alors comment sortir de l'impasse? Si une transition pacifique vous semble-t-elle encore possible en Gambie? Le débat a déjà commencé sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup de commentaires, de réactions. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure. Puisque nous parlons de Facebook, sachez que ce matin, et c'est une première, vous pourrez suivre le débat en direct sur Facebook. Nous vous proposons donc un Facebook live audio. C'est à écouter sur la page Facebook de RFI et la page officielle de l'émission Appel sur l'actualité. Sinon, nous vous attendons évidemment au standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, des questions sur cette bavure. C'est bien une bavure de l'armée de l'air nigériane. Bonjour Norbert.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Katiola, en Côte d'Ivoire, c'est au nord de Boaké. Nous vous écoutons.
Oui. Parce que l'armée nigériane a commis une bavure en bombardant un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Comment est-il possible qu'une telle erreur militaire soit commise? L'armée nigériane pensait-elle que des éléments de Boko Haram étaient présents dans le camp du placé?
Ah, bonne question, effectivement. Et beaucoup d'interrogations à l'heure actuelle, effectivement, après cette bavure. Un bilan, tout de même, un bilan du Comité international de la Croix-Rouge qui affirme qu'au moins 70 personnes ont été tuées. Il s'agit encore à l'heure actuelle d'un bilan qui peut encore évoluer, affirme le CICR. Bonjour Moïse Gomis.
Bonjour Juan.
Vous êtes le correspondant d'RFI au Nigeria. Ce camp de déplacés est situé dans le nord de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection des islamistes de Boko Haram. C'est un camp qui accueille plusieurs milliers de déplacés. C'est un camp qui est évidemment connu des autorités et de l'armée nigériane. Comment expliquer ce carnage ?
Déjà, l'armée nigériane, dès le départ, a rapidement communiqué, car les hauts gradés militaires avaient pris tout de suite la mesure de la gravité, surtout de l'onde de choc que son bombardement allait provoquer. Alors, le major général Lucky Rabor a tout de suite reconnu les faits. C'est le chef de l'opération Lafia Dole, le nom de code de l'opération militaire dans le nord-est du Nigeria. Le major général a endossé la responsabilité de la frappe en indiquant qu'il avait bien confirmé en bout de chaîne. Et ce, sur la foi de renseignements indiquant la présence dans le secteur de membres présumés du groupe armé islamiste. Mardi, seulement quelques heures après le bombardement, le major général reconnaissait lors d'une conférence de presse à Maiduguri que ces hommes lui avaient signifié des coordonnées topographiques précises. Et c'est sur cette base d'informations recoupée, selon lui, qu'il a donné l'ordre de bombarder un point précis. Et ce point précis s'avérera être ce camp de Ran, où sont hébergés plusieurs dizaines de milliers de déplacés nigérians.
Ouais, il est important de souligner, Moïse Gomis, que l'armée nigériane mène depuis plusieurs semaines maintenant des raids qui sont très localisés sur le pourtour nigérian du lac Tchad, où se trouve justement ce camp de déplacés.
Et c'est un camp qui est proche d'une zone d'activité à forte activité militaire. Ran est au bord de la frontière du Cameroun. Plusieurs dizaines de milliers de civils fuient les zones de combat. Ils sont bien souvent réfugiés dans le camp de cette localité de l'état du Borno. D'ailleurs, à proximité du camp, Juan, il se trouve une base militaire nigériane. Il faut savoir que ces opérations militaires nigérianes contre les insurgés islamistes se font en coordination avec celles menées par les autres armées de la force multinationale mixte, donc des armées du Cameroun, du Niger et du Tchad. L'objectif de cette coalition étant de prendre en étau les membres du groupe armé encore actif.
Ouais, et ces opérations militaires, elles sont particulièrement complexes à mener. On parle même d'une guerre asymétrique.
Effectivement, c'est un conflit armé contre un ennemi qui n'est pas constitué en force conventionnelle. Au contraire, en face des soldats du lac Tchad, on retrouve des combattants qui se réclament de l'État islamique, qui sont très mobiles, très fuyant, il se dissimule au milieu des populations locales. Il profite également de l'avantage de très bien maîtriser les particularités du lac Tchad. C'est un territoire constitué d'îlots pas très accessibles. Pourtant, depuis plusieurs mois, la force multinationale mixte se sent proche d'une victoire. Ses différents membres le disent de plus en plus fort. Pour eux, Boko Haram est au bord du chaos. Le groupe armé n'occupe plus formellement des pans entiers du territoire nigérian. Et surtout, la guerre larvée à l'intérieur du groupe va peut-être finir par précipiter, selon eux, la fin d'une insurrection armée qui a causé en moins de 9 ans plus de 20 000 victimes. Mardi, au moment où le pilote de l'avion s'approchait du camp de Ran, au sol, à l'intérieur du lieu d'hébergement d'urgence, c'était le jour de la distribution alimentaire. Donc, les résidents faisaient la queue et se préparaient à récupérer des vivres. Très clairement, les déplacés de Ran se pensaient à l'abri dans l'enceinte du camp, étant sous la protection de l'armée nigériane et en plus avec la présence dans le camp d'ONG. Jamais ces déplacés n'auraient pu imaginer subir un événement aussi tragique. Comment une bombe a pu être lâchée par un avion nigérian sur des civils dans l'état du Borno? C'est la question que se sont posées hier les députés nigérians lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale à Abuja, et ces parlementaires ont voté à l'unanimité la mise en place d'une commission d'enquête.
Oui, et ce carnage risque de hanter longtemps les autorités nigérianes. En tout cas, le président Buhari a qualifié cette bavure de regrettable accident opérationnel. MSF, pour sa part, dénonce une attaque choquante et inacceptable. Merci beaucoup, Moïse Vomis, correspondant d'RFI au Nigeria. On salue évidemment Norbert qui nous appelait de la région de Boaké, en Côte d'Ivoire. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On vous en parlait d'ailleurs dans cette émission la semaine dernière. La réouverture de l'ambassade italienne en Libye. Bonjour, David.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes au Gabon, nous vous écoutons.
Oui, les ambassades occidentales sont fermées en Libye et l'Italie s'apprête à rouvrir son ambassade fermée depuis février 2015. Qui assumera la sécurité de l'ambassade étant donné la situation tendue sur le pays?
Oui, situation qui s'est même dégradée hein, depuis février 2015, depuis la date de la fermeture de l'ensemble des ambassades occidentales en Libye. Bonjour Houda Ebrahim.
Bonjour Juan.
Surprenante décision que celle de l'Italie de revenir en Libye alors que la situation, je le disais à l'instant, s'est dégradée encore ces derniers mois. On peut juste d'abord rappeler aux auditeurs que derrière tout ça, il y a une volonté officielle en tout cas de lutter contre l'immigration clandestine. Hein. C'est ce qui expliquerait le retour de l'Italie en Libye.
Précipité, exactement, parce que l'immigration aujourd'hui pose beaucoup de problèmes à l'Europe et à l'Italie, surtout parce que ce pays a reçu, depuis le début de l'année 2016, 181 000 migrants clandestins qui sont arrivés presque pour leur totalité à partir des côtes libyennes.
Oui, on estime que 90% des migrants qui arrivent en Italie partent de Libye.
Plus de 90% ouais. partent de la Libye depuis la fermeture de la fameuse route qui venait de la Turquie. Et à ce moment-là, c'était la Grèce qui souffrait énormément de ce problème. Des mesures ont été prises avec la Turquie qui ont joué un rôle pour, pas éliminer complètement, mais diminuer ce chemin, le passage par ce chemin. Et la Libye, avec le chaos libyen qu'on connaît, n'arrive pas à faire face à ce grave problème, à ce grand problème qui pose beaucoup de problèmes à l'Europe entièrement, à tel point que ça a été discuté hier et avant-hier à l'Union européenne, et l'Italie ne veut plus faire face toute seule à ce problème. Elle pousse l'Union européenne à prendre des mesures et à signer des accords avec la Libye. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que avec qui on peut signer des accords dans ce pays où il y a trois gouvernements, où personne ne maîtrise vraiment les choses dans les pays, où le flux immigratoire des pays du désert et du Sahel continue à arriver. Et d'ailleurs, les craintes sont partagées parce qu'en Libye, il y a les mêmes craintes. Ils ne veulent pas signer des accords parce qu'ils ne savent pas à quoi ça va aboutir. Et je rappelle que la Libye n'a pas signé l'accord sur l'immigration de 1951, entériné par plusieurs pays. Et l'Union européenne cherche à ce que la Libye aujourd'hui le signe. Sauf que le gouvernement à Tripoli, ce gouvernement soutenu par la communauté internationale, internationale, ce gouvernement à sa rage est aujourd'hui plus faible que jamais. Et l'opinion publique ne veut pas qu'on signe des accords après des déclarations qu'on a entendues de ses côtés, de la part de la Hongrie et d'autres pays, comme quoi il faut faire retourner ces migrants clandestins en Libye, le pays d'origine.
En tout cas, l'Italie veut, on voit bien, hein, rester le partenaire privilégié de la Libye. On rappelle que l'Italie est tout de même l'ancienne puissance coloniale. David nous demandait, mais comment l'ambassade va-t-elle être protégée? On a encore tous en mémoire l'attaque, l'assaut donné contre le consulat américain en Libye. 2012. Toutes les autres ambassades ont fermé, justement, à cause de l'insécurité. Les Italiens, comment vont-ils s'y prendre pour protéger l'ambassade?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des forces libyennes en Libye, à Tripoli et à Misrata. À Misrata, parce qu'il y a un hôpital et il y a plus de 300 hommes armés de forces spéciales italiennes. Et à Tripoli, on a vu des images circuler de ces gardiens de l'ambassade et ils sont nombreux. On n'a pas des chiffres, on n'a pas de leur nombre, mais ils sont là. Et je voudrais rappeler à ce propos que l'ambassadeur lui-même, pour cette ambassade qui a réouvert mardi dernier, c'est un excellent connaisseur, un excellent spécialiste et expert du problème de l'immigration. Et l'Italie cherche toujours des moyens parce qu'elle est confrontée, elle aussi, à ce problème de terrorisme,
et de terrorisme,
de djihadisme.
On l'a vu d'ailleurs
de plus en plus
avec la découverte d'une cellule à Milano.
C'est ce qui l'a poussé à agir rapidement et à forcer les choses. Et son ministre de l'Intérieur était, comme on le sait, à Tripoli pour chercher des solutions. Pour l'instant, il n'a pas réussi à signer des accords, mais c'est en négociation et Malte, qui dirige actuellement l'Union européenne, joue un très grand rôle pour rapprocher le point de vue entre les deux parties.
Merci beaucoup, Houda Ibrahim, d'être venu nous expliquer le retour de l'Italie en Libye. Bonne journée, David. Bonne journée à vous à Libreville. 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes, maintenant, notre débat consacré à la situation en Gambie. On prendra d'ailleurs une question sur l'état d'urgence décrété en Gambie mardi par Yahya Jammeh. Question dans quelques instants. Mais d'abord, nous accueillons Delvi qui est au Congo. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Bienvenue sur notre antenne. On vous écoute. Quelles sont vos questions?
Barack Obama a pris une décision qui va permettre la libération en mois de mai prochain de Chelsea Manning. Comment expliquer cette décision alors que certains considèrent que Chelsea Manning a trahi sa nation? Et cette décision aura-t-elle des conséquences contre les poursuites d'Edward Snowden, également lanceur d'alerte?
Chelsea Manning, effectivement, qui devait théoriquement rester en prison jusqu'en 2048, et bien grâce à Barack Obama, elle sera libérée dans 4 mois. Yannick Mirreur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment Le Monde d'Obama, publié aux éditions Choiseul. Rappelons que Chelsea Manning a été condamnée en août 2013 pour avoir transmis plus de 700 000 documents diplomatiques confidentiels au site Wikileaks, concernant notamment les interventions américaines en Irak et en Afghanistan. C'est vrai que de nombreuses voix s'élèvent depuis 24 heures aux États-Unis, notamment chez les Républicains, mais aussi chez les démocrates, pour dénoncer la décision de Barack Obama. Cette militaire, Chelsea Manning, elle est perçue par beaucoup comme étant une traître, finalement, et Barack Obama lui accorde la grâce. Comment expliquer?
Alors, tout d'abord, ce n'est pas une grâce, c'est une commission de peine, et donc c'est cette peine qui est réduite.
Oui, c'est une grâce partielle.
C'est une réduction de peine pour quelqu'un qui a fait 7 ans de prison, qui a été jugé, condamné, qui a reconnu la gravité de ses actes. Donc ça n'a rien à voir avec Snowden qui est dans la nature. Alors ça, c'est une première chose qui est importante, c'est ce qui me fait dire que même s'il y a des voix qui s'élèvent, et c'est assez naturel du côté des Républicains, je pense que les motifs de la décision sont moins politiques que techniques et humanitaires dans une certaine mesure. Il y avait des procédures d'ailleurs de demande de recours par les avocats de Chelsea Manning. Donc il y a une réponse, si vous voulez, à un processus juridique, ce qui fait de ce cas-là quelque chose de particulier. Peut-être, si vous voulez prendre plus de hauteur par rapport au sujet, on peut aussi spéculer sur le fait que le président américain a voulu peut-être par là, outre répondre à ces motifs humanitaires, peut-être indiquer aussi, d'une manière un petit peu détournée ou voilée, que compte tenu de l'importance de la confiance des opinions dans les institutions démocratiques, à l'âge digital, puisque évidemment sans cela, les fuites de documents vers Wikileaks, par exemple, n'existeraient pas, c'est un phénomène complètement nouveau et inédit, peut-être dans une certaine mesure, les lanceurs d'alerte, alors, ont un rôle aussi qui peut être considéré par la morale ou une majorité de l'opinion comme n'étant pas entièrement négatif, même s'il n'est pas faux de dire non plus que ce faisant, ils trahissent leur nation.
Bien
et
sûr.
C'est évidemment dans cette zone grise, si vous voulez, que l'on se situe, je pense, par ce geste qui, une fois de plus, est important, n'est pas un geste politique, je pense, d'ordre davantage technique, mais pris par le président des États-Unis, évidemment, ça a immédiatement une dimension beaucoup plus importante.
Donc, pour répondre à la deuxième question de notre auditeur, Edward Snowden a très peu de chances, lui, de bénéficier, on va dire, du même traitement de faveur que Chelsea Manning.
Ah, je suis certain du contraire. Non, non.
Ah bon ?
Pas du tout qu'il n'y ait aucune mesure. Si vous me parlez d'une grâce complète, etc., j'en doute fort. Encore une fois, la différence, c'est que Chelsea Manning était issu des rangs de l'armée, en plus, ce qui est, dans une certaine mesure, peut-être un peu plus grave, encore que Snowden faisait partie de l'appareil de sécurité aussi, hein, les gens de renseignement, mais elle a été condamnée et purgée une longue peine de prison, donc et tentée à deux reprises de se suicider. Donc il y a une situation quand même humanitaire.
Différente. Elle a reconnu ses torts, hein, elle a exprimé des regrets, ce qui n'est pas le cas d'Edward Snowden.
Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de bien spécifique par rapport à cela, où le fait d'être mis en cause et de répondre au fond aux accusations de trahison et de reconnaître que c'est une forme de trahison, car ça l'est, indéniablement. Autant du point de vue juridique que du point de vue politique et moral, d'ailleurs. Ça l'est, mais dans une situation tout à fait nouvelle, dans cette ère digitale dans laquelle nous entrons, et qui évidemment détermine des comportements qui n'ont pas pu exister jusqu'ici. Le socle juridique, si vous voulez, de la condamnation, c'est une loi de 1917, c'est le Espionnage Act, qui était passé sous un démocrate, hein, Woodrow Wilson, notamment vis-à-vis d'une bonne partie de la population américaine, qui était d'origine allemande à l'époque, et qu'on pouvait peut-être soupçonner d'avoir une double allégeance, ou peut-être de favoriser l'ennemi allemand à l'époque de l'entrée, il y a 100 ans exactement d'ailleurs, en 1917, de l'entrée en guerre et du vote de l'Espionnage Act. Voilà la base. Donc évidemment que sur cette base-là, on est 100 ans plus tard dans l'ère digitale, il y a des considérations nouvelles à donner, et je pense encore que peut-être par cet acte-là, le président américain avant de partir a voulu dire, parce qu'il ne peut pas l'exprimer très clairement, que dans une certaine mesure, aussi les lanceurs d'alerte participent à ce besoin de clarté et de vérité dont ont besoin les systèmes démocratiques et représentatifs, et qui, comme on l'avait vu dans les jours qui viennent de précéder, les semaines qui viennent de précéder, avec la bataille entre son successeur Trump et les médias, et toute la confusion autour de cela, du rôle de la Russie, le hacking, tout ceci évidemment brouille les pistes, si je puis dire, de la vérité qui doit être... la transparence qui doit être la base du discours démocratique.
Eh bien, on verra d'ailleurs si Donald Trump, lui, tentera de protéger ou d'accorder un certain nombre de droits aux lanceurs d'alerte. Merci d'avoir été avec nous, Yannick Mireur, spécialiste des États-Unis. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique d'RFI. On va terminer cette première partie et on aura largement l'occasion de parler de la Gambie, évidemment, juste après le journal, avec une question sur l'état d'urgence en Gambie. Bonjour Alpha. Amadou.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à vos fidèles auditeurs.
Merci de nous appeler, vous êtes en Guinée, vous êtes dans le centre du pays à Lelouma exactement, on vous écoute.
Récemment, Yaya Jammeh a décrété l'état d'urgence en Gambie. À cet effet, quelles sont les mesures prises dans le cadre de cet état d'urgence? Peut-on dire que c'est cette menace d'une future intervention militaire de la CEDEAO qui a poussé Yaya Jammeh à décréter cet état d'urgence?
Oui, Yaya Jammeh qui a décrété donc mardi soir l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire gambien en raison, dit-il, d'un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent. Carole, vous allez nous expliquer juste après le journal quelles sont les mesures concrètes, s'il y en a évidemment sur le terrain depuis l'adoption donc de l'état d'urgence. Et tout de suite après, nous vous donnerons la parole sur la situation situation très incertaine en Gambie. Yahya Jammeh est toujours au pouvoir. L'opposant, désormais président élu, veut coûte que coûte prêter serment dans les prochaines heures. Est-ce possible? Faut-il impérativement qu'il prête serment aujourd'hui? Nous vous donnerons la parole à tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.
L'épreuve des